Bonjour, bienvenue au Cercle de lecture de Confluence. Nous sommes dans les moments importants de cette association puisque le festival Lettres d'automne bat son plein, on peut dire, et va se dérouler pendant 15 jours jusqu'au 2 décembre. L'invité principal cette année est Christian Garcin. Et Christian Garcin, donc, a, comme d'habitude, carte blanche pour inviter qui il veut. Et parmi ses invités se trouve l'auteur dont nous allons parler aujourd'hui, Andrei Kourkov. Andrei Kourkov, le livre a écrit donc de très nombreux livres, mais entre autres, donc, le concert posthume de Jimi Hendrix que nous avons lu et dont nous allons parler. Ce qui est Andrei Kourkov, c'est un écrivain ukrainien d'expression russe qui est né en Russie en 1961 et qui vit à Kiev, en Ukraine. Pas à temps plein, je pense. Je pense qu'il vit aussi en partie en Grande-Bretagne. Il a connu le succès avec un premier livre qui s'intitule Le Pingouin, qui a été traduit en français en l'an 2000. On peut citer aussi d'autres livres de lui, je ne vais pas tous les citer. L'ami du défunt, Truite à la slave, et le journal de Maïdan. Journal de Maïdan qui est consacré aux journées importantes de contestation en Ukraine en 2014. Alors, autour de la table pour parler de ce livre, se trouve Bernard.
Bonjour.
Françoise.
Bonjour.
Jeannette.
Bonjour.
Et moi, Jean. Alors, ce roman a intéressé les membres du cercle de lecture. Certains étaient un peu déconcertés par l'aspect, disons, on pourrait dire presque décousu du livre, mais on verra que cet aspect décousu peut peut-être se justifier. Ce titre, le concert posthume de Jimi Hendrix, se justifie par le fait que, en Ukraine, pendant la période soviétique, Jimi Hendrix ne correspond absolument pas à la musique qui est appréciée. C'est même le contre-exemple. On considère que c'est une musique, disons, de l'Occident dégénéré. Et on lui préfère une musique dite constructive et saine.
Elle est appréciée par une jeunesse rebelle, qu'on verra d'ailleurs.
Alors voilà, c'est ce que je vais. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Hein. Par contre, cette musique n'est pas inconnue en Ukraine à l'époque soviétique. Elle est même appréciée par de nombreux groupes. Et on verra que même ceux qui apparemment sont opposés à cette musique et doivent la combattre sont en fait très sensibles à ce type de musique. Alors, c'est un roman très particulier, avec des personnages un peu divers, différents les uns des autres. C'est un roman aussi qui mélange le réalisme et l'irréel, le sérieux et l'absurde, la fantaisie, l'humour noir. Mais derrière tout ça, il y a sans doute aussi une réflexion plus profonde et plus humaine. Alors, l'action se situe dans une ville d'Ukraine qui, en ukrainien, s'appelle Lviv, mais cette ville qui se trouve en Galice orientale, proche de la Pologne, est une région dont l'histoire a été très mouvementée, très bouleversée, souvent tragique, et la ville a changé de nom suivant les maîtres du temps. Elle s'est appelée Lemberg quand elle était sous domination autrichienne. Elle s'est appelée Lvov quand elle était sous domination russe. Et elle s'appelle donc en ukrainien Lviv. L'action se situe à une époque récente, mais les souvenirs de la période soviétique sont encore vivants. Et le titre donc de ce livre, comme je l'ai dit, part d'un fait très bizarre, très particulier, et déjà on est dans l'extraordinaire. Des admirateurs fanatiques de Jimi Hendrix auraient manigancé le vol d'une main de Jimi Hendrix dans un cercueil pour venir l'enterrer en Ukraine, près de Lviv.
Et l'avoir
comment dire, couler dans la résine.
Pour qu'elle soit plus facilement transportable.
Plus facilement transportable. Et ce qui est quand même assez croquignolé aussi, c'est que ceux qui se sont chargés de cette tâche sont des membres du KGB chargés de censurer et de prendre les disques que se faisaient envoyer les jeunes hippies, là, qui les écoutaient, étaient devenus des fans eux-mêmes de Jimi Hendrix.
Donc ces hippies, sans le savoir, ont été aidés dans le vol de leurs reliques par la police politique de l'époque. Et ils ont bénéficié notamment de l'aide d'un, on va en reparler, d'un ancien donc de la police politique, le capitaine Riabtsev, qui est secrètement admirateur de Jimi Hendrix.
Personnage intéressant que ce Riabtsev.
Alors, on peut parler des personnages principaux. Les personnages principaux participent à plusieurs intrigues qui sont mêlées. Parmi les hippies, il y a un certain Alik, qui est éclairagiste au Grand Théâtre de Lviv. Et de notre côté, il y a un personnage aussi qui joue un rôle très important dans le livre, qui est Taras, qui a une occupation, enfin qui a un métier entre guillemets très particulier, on en reparlera. Il y a ensuite des personnages féminins qui sont aussi très intéressants, une certaine Dara et une certaine Oksana. Il y a le voisin de Taras qui s'appelle Jerzy. Et puis on verra qu'il y a aussi un écrivain qui joue un rôle important dans l'histoire.
Alors,
si quelqu'un veut présenter plus précisément les personnages.
Oui. Je veux bien parler de Taras, qui donc a comme métier improvisé, qu'il s'est improvisé, d'être vibrothérapeute. Alors, en quoi consiste la vibrothérapie?
Donc, il faut expliquer ce terme, oui.
La vibrothérapie,
c'est un métier honorable.
C'est un métier honorable, oui. Et alors, et puis en plus, il l'a créé lui-même. Donc, avec une voiture, une vieille Opel un peu déglinguée, il passe à toute allure dans les rues les plus défoncées de Lviv, avec à son bord, pendant la nuit, oui, de façon à pouvoir rouler à toute allure, c'est-à-dire 60 km à l'heure pour son Opel, en passant dans tous les nids de poules, avec à son bord, en général, des Polonais qui sont plus riches et qui sont atteints de calculs rénaux. Et en passant comme ça, toute allure dans les nids de poules, il finit par les aider à faire décrocher ses calculs rénaux. Alors, si vous voulez, je vous lis un petit passage.
On peut signaler ses calculs rénaux, il les conserve précieusement dans une sorte de bocal.
Qu'ils auront un rôle.
Et on verra
rôle
que certains joueront un rôle très important, parce que suivant le rang social du personnage qu'il a délivré de cette façon, le calcul a une valeur et une force, une puissance particulière.
Et
certains sont des cailloux, d'autres sont des bijoux.
Alors, tout à coup, l'Opel eut un sursaut si violent que Taras, qui cette fois-ci ne s'était pas attaché, heurta du haut du crâne le plafond de l'habitacle. Le Polonais fut secoué encore plus fort et serra les dents comme s'il cherchait à retenir un cri menaçant d'échapper à ses entrailles. « Stop, stop !» hurla Panjarek, le Polonais, dont tout le corps soudain se tordit, broyé par un spasme. Il tendit sa main gauche vers Taras. La main tremblait. Instantanément, d'un geste bien rodé, Taras tira de sous son siège un bocal de verre d'un litre qu'il confia à Panjarek. Le passager, tout en continuant de gémir, ouvrit la portière. Il descendit, avec des gestes à la fois gauches et précipités, se campa dos au véhicule, baissa son jean, s'inclina en avant. Le choc sonore d'un caillou contre le verre retentit au milieu du silence absolu qui régnait, puis aussitôt s'entendit comme le murmure d'un ruisseau. Le Polonais urinait dans le bocal, lequel tremblotait entre ses mains. Une ou deux minutes plus tard, il reprenait sa place avec précaution à côté du conducteur. Il rangea le bocal vide sur le tapis à ses pieds, étendit à son voisin sa paume ouverte sur laquelle reposait un petit fragment gris et humide, une minuscule pierre de la taille d'un grain de sarrasin.
Alors, puisqu'on est dans les choses farfelues et qu'on est dans la présentation des personnages, tu l'as évoqué, Jean, certains de ces calculs, quand ils sont évacués par des grands personnages, d'anciens princes polonais par exemple, sont de véritables bijoux. Et des bijoux qui ont un pouvoir magique, et un pouvoir magique notamment auprès de l'une des héroïnes, d'Arka. On peut en dire deux mots, d'Arka.
L'amoureuse
de Tarak.
J'en parlerai volontiers.
Voilà, qui est allergique à l'argent.
Mais, particulièrement
qui est allergique à l'argent, mais tu la présenteras tout à l'heure. Mais d'Arka, qui est allergique à l'argent, eh bien, grâce aux calculs évacués par le prince polonais, se voit guérie de ses allergies, et notamment allergie à l'argent. Alors peut-être tu veux en dire davantage sur d'Arka, puis on va rester sur ce personnage féminin.
Justement, on est dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de réalisme magique. Cette d'Arka, elle est dans un bureau de change, mais plutôt dans une sorte de cage de verre où elle est enfermée à clé parce que il faut pas qu'on vienne lui voler l'argent qu'elle vient de changer.
Et elle travaille de nuit.
Et elle travaille de nuit, ce qui est assez bizarre, oui, pour changer
isolé.
De l'argent. Et le héros va la rencontrer et elle lui apparaît derrière donc sa vitre. Elle est complètement enfermée derrière sa vitre, un peu comme une espèce d'icône, comme une espèce de personnage un peu irréel, fantastique. Elle est derrière cette cage et il y a juste une toute petite ouverture pour qu'on puisse faire passer l'argent et qu'elle puisse changer l'argent. Et lorsque le héros va lui proposer de boire une tasse de café... la tasse de café peut pas passer dans l'ouverture. Donc, il s'arrange pour aller chercher un cendrier, et c'est ce cendrier donc qui va passer, qui va lui faire passer. Donc, on est à la fois dans les détails très précis et réalistes, et en même temps dans une sorte de magie, parce que cette Dara, elle est un peu vraiment comme un personnage au début, hein, parce qu'après elle sortira de sa cage de verre, mais au début elle est, comme elle est curieusement aussi, elle change de l'argent, mais elle est allergique à l'argent, et donc pour manipuler les billets et les pièces, elle a des gants, et ça lui donne encore cet aspect un peu irréel, magique. Donc je veux bien, si vous voulez, lire la présentation de ce personnage. Le petit guichet Henri emplit de lumière l'enchantait. Même s'il n'avait pas de devise à changer, l'endroit eût exercé sur lui la même attraction. Pourvu qu'il pût jeter un regard, un seul, à la jeune fille sympathique, vêtue de couleurs vives, qui travaillait toujours les mains protégées de longs gants, à l'aspect suranné. « Bonjour !» Il glissa les $30 dans l'ouverture. Une main gantée de vert émeraude s'empara avec élégance des billets froissés. « Vous venez un peu tard aujourd'hui, » lui dit la jeune fille. « Je suis tombé sur un client difficile, » répondit Taras. « Vous travaillez dans une boîte de nuit, j'imagine ?»« Non, je suis dans la médecine. » Taras n'avait pas envie de s'étendre davantage. Il se pencha contre la vitre. « Vous aviez promis de prendre un café avec moi. »« Moi, impossible, je ne vais pas au café avec des inconnus, » répliqua-t-elle, rieuse, tout en comptant les Rvinias. « Faisons connaissance alors. Je m'appelle Taras, et vous ?»« D'Arka, » répondit la jeune fille. « Mais de toute façon, je n'irai pas prendre un café avec vous. En revanche, si vous m'en apportiez un, je le boirai. Autrement, je vais m'endormir. Je n'ai vu personne cette nuit. »« Je vous l'apporte, » affirma Taras. « Je vous l'apporte exactement dans exactement 10 minutes. » Et à partir de là, va se nouer une relation qui va devenir de plus en plus sentimentale avec cette Dara.
Alors, Taras rentre chez lui une fois qu'il a fait sa vibrothérapie et s'endort au rythme de l'hymne national ukrainien qui a sur lui un pouvoir soporifique. Et on avait envie de vous le faire écouter.
Thank you.
Donc voilà l'hymne, un extrait de l'hymne national ukrainien, dont les premières paroles sont « De l'Ukraine ne sont pas encore mortes ni la gloire ni la liberté ». Donc un hymne bien nationaliste. Et par contraste, on voudrait vous faire écouter la façon dont Jimi Hendrix retraite, on peut dire, l'hymne national américain. Pas forcément massacre, mais le retraite à sa façon, déconstruit. Évidemment, la façon de traiter cet hymne national est un bon exemple d'une sorte d'irrespect qui, à l'époque soviétique, paraissait absolument insupportable aux officiels. Et on a un bon contraste entre, si on compare ces deux hymnes, d'un hymne qui se veut donc sain, constructif, positif, et d'un autre qui est qui part un peu dans tous les sens et qui déstructure. Mais à propos de cette déstructuration, il m'a semblé que le titre aussi pourrait concerner la façon dont le livre est lui-même construit. Il est construit par juxtaposition un peu étonnante de différents thèmes. Et je me suis dit qu'après tout, peut-être que l'auteur, avec des mots, avec des chapitres, enfin des paragraphes, imitait un peu cette déconstruction de la musique de Jimi Hendrix. Mais bon, c'est un point de vue.
On se disait aussi que à la fin du livre, le fameux guébiste, c'est-à-dire ex-KGB, Ryabsev, finit par sortir de son colombier, parce qu'il est devenu colombophile après avoir pris sa retraite, les guitares, les disques qu'il a confisqués au nom du KGB et qu'il va rendre à ceux à qui ils étaient destinés et fait écouter le disque qu'il avait confisqué, donc fait lui aussi une sorte de concert posthume.
Oui, bien sûr. Françoise, tu voulais dire...
Alors, Ryabsev, puisque tu as évoqué le personnage du guébiste, c'est un personnage tout à fait intéressant. Effectivement, il a passé 40 ans de sa vie à espionner, à poursuivre et à confisquer. Et puis là, il se révèle comme un fan de Jimi Hendrix, un des meilleurs fans de Jimi Hendrix. Il se lie d'amitié avec Alik, l'ancien hippie.
Alors qui se dit toujours hippie.
Oui, un vieux hippie, mais qui se dit toujours hippie. Et finalement, il se trouve beaucoup de points communs. Quoi. On en est au personnage, peut-être. Françoise, tu voulais parler de personnage féminin.
Darka a été évoqué.
Oksana, moi je veux bien dire un mot d'Oksana.
Ah, vas-y.
Oksana est l'autre personnage féminin, c'est... Alors, je voudrais quand même dire, avant de parler d'Oksana, que ce que l'on trouve chez presque tous ces personnages, c'est qu'ils semblent seuls. Quoi, ils vivent seuls, ou quand ils sont en famille, la famille, on n'en parle pas. Et c'est une vie, comme dit l'un d'eux, pleine d'imprévisibilité et d'alcool. C'est-à-dire, quand ils sortent de chez eux le matin, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ils se rencontrent, ou ils ne se rencontrent pas. Ou ils vont chez l'un et c'est l'autre qu'ils rencontrent. Enfin, il y a beaucoup d'imprévisibilité, effectivement, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre. C'est le cas d'Alik. C'est le cas. Alors, c'est un peu moins vrai pour Taras, tu l'as dit, puisqu'il a un métier la nuit et il débarrasse les Polonais de leurs calculs. Mais lorsqu'il a fini de conduire sa voiture sur les rues pleine de nids de poules, il est aussi soumis à cette imprévisibilité. Tantôt il va voir Dara, tantôt il rentre chez lui, tantôt il rencontre d'autres. Bon, il y a cette...
Et il rencontre Oksana.
Et il rencontre Oksana. Alors tu peux peut-être dire un mot d'Oksana.
Oh, que dire d'Oksana ? C'est une comédienne au grand cœur qui s'occupe dans la journée, quand elle a du temps, de donner des repas à des SDF. Voilà, parce qu'il y a un centre à Vinicky où les SDF peuvent exercer diverses activités, prendre une douche et ils reçoivent des repas. Et Oksana est un des piliers de cette association qui vient en aide aux SDF ukrainiens. À part ça,
c'est une forte personnalité.
Oui, c'est une forte personnalité. Elle est une amie de Taras, et elle vient à l'improviste lui souhaiter son anniversaire.
Elle le materne, voilà. Le comportement de
voilà.
Mère par rapport à lui.
Et elle va être assaillie, enfin, son appartement va être assailli par une mouette, ce qui semble très improbable à Lviv, mais ça va arriver. Et Taras et Jerzy, donc l'ancien coiffeur, viendront l'en délivrer.
On peut dire que les deux personnages féminins sont vraiment l'antithèse l'une de l'autre. Il y en a une qui est vraiment dans l'irréel, évanescente, et l'autre qui a
les pieds sur terre
et qui est très, comment dire, réaliste.
Absolument. Hein. Et dans l'imprévisibilité dont je parlais tout à l'heure, elle ramène souvent les personnages
à la réalité.
À la réalité. Hein, oui. Elle vient à l'improvise chez eux, mais c'est pour...
Et même, elle s'occupe de détails.
Leur apporter des légumes du marché.
Rouges, nourrir les poissons rouges. Voilà. Enfin, rouges, je ne sais pas s'ils sont rouges.
Oui,
oui, alors, vous avez évoqué aussi Jerzy. Moi, j'aimais bien ce personnage un peu décalé. Un ex-coiffeur.
Qui
exerce toujours. Enfin, qui s'est remis à exercer. Un ex-alcoolique. Et qui tombe très amoureux lui aussi de cette Oksana, qu'il essaye par tous les moyens de rencontrer, y compris en lui arrachant des promesses du style qu'elle accepte de se laisser coiffer et couper les cheveux par lui. Et pour faire ça, il est prêt à tout. Alors, entre autres, il est prêt
à coiffer les SDF.
À coiffer 50 SDF et à manger un gâteau entier qui le rend malade parce qu'elle lui avait laissé entendre que si jamais il mangeait tout le gâteau, peut-être elle pourrait l'embrasser. Il pourrait l'embrasser.
Mais c'est arraché, c'est bien que les promesses qu'il arrache, parce que sinon les relations entre ces personnages sont plutôt douces.
Oui.
Il n'y a pas de conflit ouvert entre eux, ils s'écoutent, ils se respectent. Je trouve que c'est quand même ce qui caractérise
cette imprévisibilité, là, comme tu disais, ça les rend très, très accessibles. C'est-à-dire que sur un coup de téléphone, j'ai besoin de te voir, viens.
Voilà,
il est là. Il y a beaucoup de...
Ou elle est là.
Oui.
Ouais.
Et toi, Françoise, tu avais été touchée par la solidarité.
Oui, oui. Oui. Et je reprends un des propos de la quatrième de couverture, où il dit que sous leur fantaisie, les romans d'Andrei Kourkov laissent croire aux vertus de la fraternité. Et je trouve qu'on en a un très bon exemple ici avec les personnages de Taras et d'Alik, qui vont dans quelque sorte prendre sous leur aile un marginal, c'est Jerzy, ou mis au ban de la nouvelle société ukrainienne indépendante, l'ex-guébiste, donc membre du KGB, Ryabtsev. Taras, effectivement, ne s'arrête pas aux colères de son voisin Jerzy, un ancien coiffeur alcoolique, qui lui reproche de faire grincer une marche d'escalier. Parce que, dit-il, il voyait bien que l'homme avait tout simplement besoin d'amitié et de compréhension, ou tout au moins d'attention, et qu'il ne faisait du scandale parce qu'il en manquait. Il s'est très bien discerné que cet homme est très seul, et il va le faire venir chez lui, lui parler, lui confier des tâches pour le remettre un peu en confiance, notamment lui rappeler qu'il doit nourrir ses poissons. Et c'est vrai, Jerzy cessera de boire, et Taras, à la fin du roman, ou au milieu, se laissera couper les cheveux par lui. Et il deviendra même le témoin de son mariage.
Oui, faut dire que tout au long du récit, on boit énormément.
On boit énormément. Et on, plus le livre avance, plus on boit.
Voilà.
Et on toujours, boit à 10 heures du matin.
Toujours dans l'imprévisibilité. Ouais, oui, hommes et femmes, les femmes moins quand même.
Oui,
mais dans l'imprévisibilité, il est très bien vu de s'affaler sur le sofa de celui chez qui on a abusé de la vodka pour y dormir jusqu'au lendemain matin. Voilà. Mais je voulais lire un autre passage là de, pour cette solidarité. Alik, à un moment donné, se fait aborder par un de ses collègues qui lui dit « Viens boire un coup avec moi ». Et il n'en a pas envie parce qu'il voudrait...
Éclairagiste au théâtre aussi.
Éclairagiste au théâtre comme lui. Il n'en a pas envie, il voudrait rentrer, mais enfin bon, il y va. Alik but à sa santé, puis voulut poliment prendre congé. Mais à ce moment, l'autre le supplia de rester un peu, ne fût-ce qu'une demi-heure. Alik comprit alors que son collègue avait le cœur triste et mélancolique. L'autre ne fêtait ses 49 ans qu'avec lui, en tête à tête, en y ajoutant le fait qu'ils n'étaient pas vraiment amis, même s'ils échangeaient régulièrement quelques mots. Il comprit encore que son collègue souffrait non seulement dans sa vie personnelle, mais dans la vie en général. Quand vous n'avez personne pour fêter votre anniversaire, c'est que personne autour de vous n'en reconnaît la date et que personne ne s'intéresse à vous.
Et Alik, oui, Alik va également lier amitié avec Riabsev, donc il le rencontre lors...
Le guébiste,
lors de la cérémonie organisée tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Jimi Hendrix.
Pierre.
Voilà, et ce guébiste, finalement, lui aussi, c'est un solitaire qui n'a plus de raison d'être. Maintenant qu'il a arrêté son travail d'espionnage et que l'Ukraine est devenue indépendante. Et il se dit, il avait envie maintenant d'être aimé, mais on ne lui prêtait même pas attention. Et celui qui va lui prêter attention, finalement, c'est Alik.
L'ancien hippie.
Le toujours.
Le toujours hippie.
Oui. Il insiste beaucoup là-dessus, le fait qu'il est toujours hippie.
Et ils deviendront tellement copains qu'ils arriveront tous les deux à trouver l'origine des dysfonctionnements qui s'abattent sur le vif et ils parviendront à en délivrer la ville.
Alors peut-être qu'il faudra qu'on explique.
On y reviendra, oui.
Sans dévoiler.
Oui. Et le copain d'Alik, donc l'écrivain Yurko, je ne sais plus quel est son nom de famille.
Vinichuk.
Finira même, lui, par surmonter l'antipathie qu'il conserve vis-à-vis de cet ancien guébiste. Et à la fin, c'est un des derniers passages du roman, il va l'inviter chez lui quand Riabsev lui aura rendu et offert les guitares qui avaient été si longtemps confisquées. Donc finalement, antipathie, je crois, et générosité sont deux mots très importants dans... Empathie et générosité sont deux mots très importants dans ce roman.
Dans les relations entre ces personnages, oui.
Alors peut-être que c'est justement grâce à l'influence de la musique de Jimi Hendrix, et on peut écouter un extrait de une chanson qui est citée dans le livre « After all, the Jacks are in their boxes ». Pardon pour la prononciation.
Et qui s'appelle The Wind Cries Mary.
After all, the Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Thank you.
Donc il se trouve, comme je disais, que cette chanson est citée en partie dans le livre, et c'est le capitaine, donc ex-guébiste, qui l'a fait écouter dans son pigeonnier au personnage.
Voilà, et disons, elles l'ont séduit, même lorsqu'il était guébiste, donc, parce qu'elle convoquait l'instinct animal de la joie, la sensation de liberté, le frisson et la soudaineté des désirs. Donc, bien qu'il soit bien endoctriné, ce guébiste s'est laissé aller aux séductions de la chanson occidentale.
Oui, et il est dit à un moment donné dans le roman que lorsque les hippies se réunissaient dans un parc, la police n'était pas loin, mais finalement était indulgente vis-à-vis de ce groupe, et il n'y a jamais eu de poursuite vraiment violente vis-à-vis de ce groupe qu'on laissait un peu libre.
Et on comprend pourquoi quand on voit effectivement combien Ray Abtseff était un fan de Jimi Hendrix, c'est peut-être un des plus anciens et un des plus ardents encore aujourd'hui, quoi.
Ce qui ne l'empêchait pas d'espionner pas mal, parce qu'il y a un passage rigolo du livre où Alick perd sa clé. Et justement, Riapsek la lui retrouve parce qu'en fait, il l'a toujours eue, parce que nuitamment et sans bruit, il allait dans l'appartement de Alick du temps où il était au KGB.
Oui.
Alors, il y a un personnage dont nous n'avons pas parlé. Au cercle de lecture, pour certains d'entre nous, c'était le personnage de trop. Pour d'autres, c'est le personnage qui explique, ou qui tente d'expliquer, si tant est que c'est explicable, les phénomènes irrationnels que l'on rencontre par-ci, par-là, et de plus en plus fréquemment au cours du roman, c'est le marin. Le marin, c'est un SDF, un marin échoué là, dans cette ville qui n'est pas un port de mer, qui est devenu un SDF, et qui vomit la mer, qui vomit des saveurs salées, voilà. Alors, peut-être faut-il pas en dire davantage.
Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est là dans la plus haute fantaisie, et cette fantaisie va s'amplifier à mesure que le roman avance. Ce qu'on peut dire, si, quand même, c'est que ce marin, c'est en fait un personnage que l'écrivain avait voulu supprimer. Et ce marin,
L'écrivain dans le roman.
Dans le roman.
Vinichuk.
Et ce marin, d'une certaine manière, se venge. Oui, on pourrait dire se venge. Mais il y a une chose très pittoresque aussi qui est dite à un moment donné, c'est que lorsque on est loin de la mer, comme on l'est à Lviv, et qu'on est un marin, c'est la mer qui vient rejoindre le marin. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces phénomènes paranormaux, que l'on sent l'iode, qu'il y a des mouettes, etc.
Des mouettes qui attaquent les habitants et qui les blessent, qui les blessent dangereusement. Il y a aussi des crabes et des étoiles de mer qui apparaissent dans les rues. Il y a l'eau des robinets se charge de sel. Une odeur d'iode se répand dans la ville. Et alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées pour expliquer ces phénomènes étranges. Alors, Riapsev pense, quant à lui, que c'est la mer des Carpates qui remonte de sous terre. Et un médecin dit que c'est le produit d'orages magnétiques. Ou encore, je crois que c'est un spécialiste des phénomènes paranormaux, dit que c'est la pollution. Ces phénomènes sont dus à la pollution de la terre par des engrais, ce qui ferait remonter de l'eau salée à la surface. Un autre avance l'hypothèse de blagues d'étudiants en chimie qui auraient fabriqué des gaz hallucinatoires qui produiraient des hallucinations sur la population. Et en fait, on apprendra que tout cela est dû à la présence du marin.
On ne croit aucune de ces hypothèses, et effectivement, c'est le marin qui apporte la clé.
Oui, parce qu'on consulte très sérieusement le laboratoire des phénomènes paranormaux avec des gens qui sont spécialistes et qui essaient de trouver des explications scientifiques.
Qui ont même des appareils pour mesurer les phénomènes paranormaux.
Donc c'est très curieux parce que cette société est héritière d'une société, enfin d'un monde où au contraire on fait confiance à la science, etc. Et en même temps il y a tout ce côté donc paranormal.
C'est vrai qu'on pensait à des films, les mouettes qui attaquent, font irrésistiblement penser aux oiseaux.
Il en est question d'ailleurs, on le dit précisément.
Mais je pensais pour l'appareil là, qui permet de tester les phénomènes paranormaux, à SOS Fantôme. Je ne sais pas si vous avez vu ces films-là.
Oui.
un film américain.
Oui, on est dans le loufoque, enfin, dans l'absurde.
Oui.
Et il y a, justement, tu citais la quatrième de couverture. La quatrième de couverture cite aussi les Monty Python.
Oui.
Donc il y a un effet Monty Python dans ce livre.
C'est vrai.
C'est-à-dire que tout d'un coup, la fantaisie.
Tu as insisté assez sur le fait que c'est un livre qui est souvent drôle.
Ah oui, ce qui m'a beaucoup amusé, moi, c'est que.
Souvent drôle.
Pour se protéger des émanations délétères de ce marin d'Odessa, il faut boire. Il est inoffensif quand il est à jeun, mais dès qu'il a bu, les phénomènes paranormaux se répandent.
Non seulement alors, le marin, mais ceux qui l'approchent.
Oui, et le seul anesthésiant, c'est de boire. Et à la fin, tout le monde picole. Enfin,
il picole encore plus que...
plus que d'habitude.
Donc les explications tout à fait fantaisistes sont les bienvenues à ce moment-là.
Mais c'est vrai qu'enfin, c'est pas l'humour qui fait rire aux éclats, mais quand même, on sourit beaucoup quand on lit ce livre.
C'est loufoque et cocasse, enfin, c'est très...
Alors, il y a un autre détail qu'on peut livrer, et qui est aussi, qui fait partie de cette espèce d'humour noir. Il se trouve que cette main, donc cette relique de Jimi Hendrix, qu'on a ramenée clandestinement, c'est la main droite. Mais on apprend que Jimi Hendrix était gaucher. Et donc, ça trouble un peu les...
C'est un second choix.
Oui.
Et comme il jouait aussi avec ses dents, finalement, ça a moins d'importance.
Et, ah oui, ce que je voulais dire, que j'avais dit d'ailleurs au cercle de lecture, c'est que bon, les pays de l'Est me sont étrangers. Et quand je lis ce livre, je ressens beaucoup d'exotisme, ne serait-ce que par la nourriture qui est souvent proposée justement pour accompagner les casse-croûtes qu'il faut prendre.
Pour accompagner la vodka.
Voilà, pour faire passer la vodka.
Faire passer la vodka.
Voilà, alors je citerai, j'ai relevé les concombres salés, la laitue de mer, que je ne connais pas, les sprats, les filets de hareng, le saucisson, les oignons et les cornichons salés.
Tout ça voilà. Pour faire glisser la vodka.
Mais ils ne font pas bonbons, ça. C'est toujours des petites choses.
Oui, parce qu'on sent malgré tout...
Ils boivent beaucoup, mais ils mangent peu.
On sent malgré tout que ils sont assez pauvres.
Voilà, il y a une certaine...
Tous vivent dans des studios.
Voilà, sinon la disette, du moins, la misère n'est pas loin. Quoi.
Et il se trouve que ceux dont Taras soulage de leurs calculs rénaux sont pas des Ukrainiens, sont des Polonais. Donc apparemment plus riches.
Ah ben oui.
Et qui peuvent donc se payer le voyage et puis
c'est le mirage de l'Union européenne.
Ouais.
C'est une société non pas de disette mais de vie extrêmement modeste où je crois les valeurs de la solidarité et de la fraternité sont encore très présentes.
Parce qu'elle est nécessaire en même temps.
Oui.
Mais on sent bien quand même ce poids de l'ex-Union soviétique et on se dit malgré tout ce poids, tout est passé, tout a filtré, qu'il s'agisse du rock, qu'il s'agisse... Donc finalement la censure ne fait qu'aviver les ardeurs peut-être.
Peut-être.
Oui, peut-être même qu'au contraire, ça devient une espèce de jeu de déjouer tout ce qui est interdit. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé en tout cas. Mm-hmm. Ouais.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est possible de rencontrer Alexis Kourkov.
Andrei
Kourkov, puisqu'il va venir le mardi 27 novembre au théâtre à Montauban à 19h30 parler de son dernier roman et que le lendemain, il sera à Cahors à 18h30 à la médiathèque du Grand Cahors. Donc, ça sera intéressant de voir. Il paraît qu'il parle très très bien le français.
Oui,
il parle
bien français. C'est un personnage truculent.
Et que
un personnage truculent.
Bah, on verra. Je sais pas. Il va falloir qu'on se fournisse en cornichons. Je suis en train.
Et en vodka.
Pour la laitue de mer, ça sera plus difficile.
Et en vodka, je sais pas ce que c'est exactement. On trouvera.
On peut proposer aussi, conseiller la lecture d'un autre livre d'Andrei Kourkov, qui est celui qui a fait son succès, c'est Le Pingouin. Et dans Le Pingouin, il y a déjà toute cette fantaisie, toute cette drôlerie, cet humour noir slave, on pourrait dire, mais dans un livre qui est peut-être plus construit, structuré que le nôtre.
Tu peux quand même dire un peu de quel est ce que ce pingouin fait dans cette histoire.
Alors, on peut dire, oui, quel est le thème. Ça commence à un moment où ça se passe à Kiev cette fois. Et le zoo de Kiev est en faillite et propose aux habitants de prendre en pension des animaux. Et le personnage principal du livre donc prend en pension chez lui, dans son appartement, un pingouin. Et ce pingouin donc va vivre à côté de lui, l'air toujours triste, en noir et blanc. Et finalement, on va proposer au personnage que ce pingouin accompagne des enterrements un peu prestigieux, enfin de personnages importants, parce que on dit au personnage, ton pingouin en noir et blanc, ça ferait vraiment très chic dans un enterrement. Voilà donc le genre d'humour noir que développe Andrei Kourkov.
Autrement, comme autres annonces, à part le lettre d'automne, mais pour lettre d'automne, je pense que vous êtes tous munis de votre petit fascicule qui donne le programme. On peut dire peut-être quel est notre prochain livre.
Oui, alors le prochain livre pour le cercle de lecture, c'est un livre d'une auteure portugaise, Lydia Jorge, qui s'intitule « Les Mémorables ». Et ce sera, la réunion se fera au mois de janvier.
Le vendredi 11 janvier, à 10h, à la petite comédie.
Je donne aussi un autre conseil de lecture à propos de Jimi Hendrix. Lydie Salver, qui est venue de nombreuses fois à Montauban, a écrit un livre qui s'intitule « Hymne ». Et il y est principalement question de cet hymne américain dont on a entendu un extrait, réinterprété par Jimi Hendrix à Woodstock en 1969.
Je ne sais pas si ça vaudrait la peine aussi de rappeler que Lviv a été, pendant la guerre, le siège de pogroms absolument effrayants, et que ces Polonais là dont on parle, enfin, c'était une ville extrêmement cosmopolite avant la guerre. Il y avait une population très mélangée, 50% de Polonais paraît-il, environ 25% de Juifs et donc seulement 25% de Russes ou d'Ukrainiens. Et après la guerre, tous les Polonais avaient été chassés, tous les Juifs avaient été massacrés. Et c'est le thème un peu, enfin, que traite Mendelssohn dans les disparus.
Tout à fait, oui.
De ces pogroms effrayants qui ont eu lieu à Lviv. Kourkov n'en parle pas, n'y fait pas d'allusion.
Non, il ne fait pas du tout d'allusion. C'est pas son sujet. Hein,
pas son sujet.
C'est pas son époque aussi. Ouais.
Oui, donc le livre dont tu parlais s'intitule Les Disparus, de Daniel Mendelssohn. C'est un livre absolument bouleversant, magnifique, où il part à la recherche de ses ancêtres qui ont vécu donc ces moments absolument épouvantables de la période nazie.
Et il retrouvera leurs traces après une enquête qui le conduira aux quatre coins du monde.
Voilà.
Et on peut terminer avec Jimi Hendrix. Alors,
voilà, je te laisse présenter, Jeannette.
On vous propose Hey Joe, qui est un des succès.
Au revoir.
Au revoir.